Sébastien Lévesque, comment vas-tu?
Ça va très bien et toi, Émile Gauthier?
Ça va très bien et j'en profite pour vous annoncer que notre très attendue saison 8, ayant pour thème les Rabbit Holes, débutera le 4 octobre prochain sur toutes les plateformes.
Mais si vous êtes un membre Patreon, où que vous soyez dans le monde, elle débutera en avance, soit le 27 septembre. Patreon, c'est une plateforme de sociofinancement à abonnement mensuel qui vous donne accès à du contenu exclusif de Distorsion et à tous nos épisodes en avance, le tout sans publicité. On vous offre deux forfaits exclusifs pour nous supporter.
À 3 $ canadiens par mois, vous avez accès au forfait Distordu, qui vous offre un shout-out dans un épisode, l'accès au serveur Discord VIP, accès aux épisodes réguliers en avance, accès aux épisodes bonus en avance, 10 % de rabais sur la boutique, et ce, à chaque mois.
On a aussi le forfait Oui, monsieur! À 8 $ canadiens par mois, vous obtenez tout ce qui est inclus dans le forfait Distordu. Vous avez en plus accès à du contenu exclusif qui est dédié à ce forfait, comme un after-show après chaque épisode, des interviews, des discussions off the record, etc. Vous avez aussi également accès à un épisode secret par saison, sans parler que vous avez accès aux épisodes secrets des saisons précédentes. Également, vous avez 20 % de rabais sur la boutique à chaque mois.
Rendez-vous au patreon.com/distorsion pour vous abonner et devenir des commanditaires officiels de Distorsion.
On vous remercie énormément de votre soutien et bonne écoute.
Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur...
Investigators say a job seeker from Florida who responded to a bogus Craigslist ad for a job on a cattle farm in Ohio was found dead and buried in a shallow grave.
Des histoires étranges de l'ère numérique. Site d'annonces classées, on peut trouver de tout. Une nouvelle voiture, tout comme un emploi de rêve.
C'est d'ailleurs ce que plusieurs hommes croyaient avoir trouvé à l'été 2011. Un emploi zen, près de la nature, sur un ranch en Ohio.
Ils ont tout laissé derrière eux, leur maison, leur famille, jusqu'à ce que leur rêve tourne au cauchemar.
Au cours de cet épisode, nous allons explorer le côté sombre des annonces classées en ligne.
Sébastien Lévesque, comment ça va?
Ça va bien. Et toi, Émile Gauthier?
Ça va très bien parce que je suis content ce soir, on retombe un peu dans le true crime.
Ouais.
Ça fait longtemps qu'on n'avait pas traité. Ben, ça fait longtemps. Ça fait deux semaines. Mais je suis content qu'on retombe un peu dans une histoire sordide, une histoire un peu mystérieuse et fascinante sur les annonces classées sur Craigslist. Mais pour nous aider à passer au travers de tout ça, Seb, on a une bière intéressante ce soir.
Oui, comme vous savez, c'est la bière de la semaine et on aime bien les bières québécoises. C'est la Victor, la microbrasserie La Tour à bière située à Chicoutimi. Je connaissais pas du tout cette microbrasserie-là.
Moi non plus.
J'en découvre à chaque semaine. Il y en a. C'est incroyable. Je pense que cette année, c'est sûr, c'est l'année la plus forte parce que j'ai jamais eu autant une tendance et une demande de la part des gens des bonnes bières québécoises. Puis je dois le dire, on est excellent. Mais bref. La Victor, c'est une bière blonde légèrement amère selon son descriptif avec un 7 % d'alcool. Et je dois avouer que c'est une bière, elle goûte la bière forte d'une bonne blonde avec une belle amertume en bouche.
Oui.
Je dirais qu'actuellement, j'aurais le goût de la manger avec une bonne bavette de bœuf. Je trouve qu'elle a quand même c'est pas une amertume douce nécessairement d'apéro.
C'est vrai.
Elle a de la gueule, si on veut.
On a une review 5 étoiles sur iTunes. Merci d'aller nous encourager. Pour nous, ça nous donne envie de continuer puis de raconter d'autres histoires. Cette fois-ci, ça vient de .373773. On nous dit « Il y a une avalanche de podcasts techno. Émile et Seb en ont d'ailleurs déjà fait un excellent. Oh, on a peut-être un auditeur de haute résolution ici. Shout out à Steve the Geek. Cette fois, il trouve le moyen de me surprendre chaque semaine avec des sujets dont je n'ai jamais entendu parler pour la plupart. Ils sont très bien documentés. Donc, merci à toi, notre ami au nom numérique. shout out à toi. Et puis, n'hésitez pas à nous donner un petit review sur iTunes. Craigslist. Oui. Toi, Seb, fais-tu souvent des achats sur Kijiji ou sur les petites annonces classées en ligne?
Très peu, je te dirais. Étrangement, j'aime pas beaucoup le monde de l'usager, mais je l'ai déjà fait. Je l'utilise quand même pour vendre des trucs de bébé, parce que vous savez, quand on a un enfant, il y a des cycles. Il faut toujours, à un moment donné, se débarrasser de trucs, mais sinon...
Mais tu sais qu'il y a eu plusieurs meurtres reliés à des annonces classées de vêtements de bébé.
Pour vrai?
Il y a même eu des enlèvements d'enfants. Oui, il y en a plusieurs. Il y en a eu plusieurs, oui, exactement.
Je savais même
pas. Je veux pas te faire peur je te laisse continuer.
Mais quand même, c'est fascinant. Là, je vais avoir plus peur maintenant. Mais non, c'est ça. Mais sinon, je l'utilisais quand même. Mais je dois avouer que pour vendre certains trucs, il faut que ça vaille la peine parce que je trouve que c'est beaucoup de gestion de gérer le flow d'annonces. Mais c'est indéniable, là, je veux dire, les annonces classées, c'est là pour rester. Puis je veux dire, il y a un peu de tout qui se transige là-dessus, là, d'un jouet de bébé à des services sexuels. Là. Donc, on retrouve de tout sur les annonces classées. C'est un peu la beauté de la chose.
Et en Amérique du Nord, le champion des annonces classées, c'est Craigslist depuis plusieurs années. Nous, c'est peut-être un peu moins populaire chez nous au Québec parce qu'on a été pas mal élevé avec les PAC. Les petites annonces classées, mais aussi Kijiji, entre autres, qui est très populaire ici. Mais Craigslist, malgré qu'il n'ait pas changé là, depuis plusieurs années, demeure quand même un site ultra populaire, surtout aux États-Unis. Je croyais que tu me disais que c'était quoi le septième?
C'est le septième site le plus visité aux États-Unis. Ils ont 50 milliards de pages vues par mois. C'est incroyable. Ça a été fondé en 95 par un certain Craig Newmark. En fait, lui, à la base, quand on décortique Craigslist, en fait, c'est les listes de Craig, justement, de Craig Newmark. À la base, lui, c'est un peu une infolettre qu'il publiait. Il habitait à San Francisco. C'est un développeur informatique. Puis lui, il voulait communiquer avec les gens de son quartier pour publier les événements, c'était vraiment un objectif social.
Pour réseauter.
Exactement. Et au fil du temps, il s'est rendu compte que les gens utilisaient sa plateforme, parce qu'au départ, c'était pas un site web, c'était vraiment une genre d'infolette. Puis retournant en 95, les systèmes étaient pas vraiment bien. Puis justement, ce qu'il s'est dit, il voyait que justement, les gens publiaient différents événements, et ils l'utilisaient pour d'autres choses. Puis là, il s'est dit, puis les outils qu'il utilisait étaient pas bons, fait qu'il s'est dit, je vais faire un site web avec ça pour d'événements. Puis là, les gens se sont mis à annoncer des offres d'emploi et tout ça, et ils se sont mis, Craig, c'est un gars d'informatique, et ça l'a attiré d'une manière un peu organique les développeurs informatiques et à publier des offres d'emploi là-dessus, et ça a créé un réseau. Puis même à la base, au début, c'était beaucoup des offres d'emploi en techno. Ça a toujours été réputé pour ça. Et ça s'est construit, puis il y a différentes nouvelles catégories qui ont été créées, et c'est devenu Craigslist, qui est un des plus gros sites d'annonces au monde.
On trouve de tout sur Craigslist. Et ce soir, pour vous, on a des histoires de gens qui ont cru prendre des bonnes décisions, puis que malgré eux, ils se sont retrouvés au mauvais endroit, au mauvais moment, à leur risque et péril, et même au péril de leur vie. Des histoires quand même assez terrifiantes qui vont vous faire remettre en question votre utilisation des annonces classées en ligne définitivement. Seb, est-ce qu'on est prêt à se lancer là-dedans?
Let's go. On se retrouve en 2011, où ce que l'économie américaine commençait quand même à reprendre un peu du mieux. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la crise économique de 2008, la crise des subprimes, la crise immobilière qui a quand même eu d'énormes impacts.
Ah oui, ça a eu des impacts sur nos vies, évidemment, nous au Canada. Ça a eu des impacts sur tout ce qui est les taux hypothécaires, sur la capacité d'emprunt. Les gens avaient abusé énormément aussi des crédits offerts par les banques. Depuis cette crise-là, par exemple, c'est impensable d'avoir des prêts hypothécaires bigénérationnels, comme on a déjà vu, des prêts sur deux générations ou sur 80 ans ou des choses comme ça.
Ouais, ça, c'est un truc assez européen, mais ils n'ont pas le choix tellement que ça coûte cher.
Oui, c'était une crise assez désastreuse.
malgré que le taux de chômage restait quand même, malgré tout, élevé, mais qui s'améliorait tout de même là, depuis quand même 2008. Il y avait beaucoup de gens qui arrivaient toujours pas à se trouver un emploi, puis des gens qualifiés. Donc, les gens se sont mis un peu à se retourner vers des alternatives pour chercher un emploi. Donc, les gens se retournaient sur Craigslist, où ce qu'on pouvait un peu, à un moment donné, quand t'es désespéré puis que ça fonctionne pas, tu te retournes. Parce qu'on a un peu, je sais pas si t'es un peu comme moi, mais j'ai un genre de préjugé au niveau de la recherche d'emploi sur des annonces classées. Mm-hmm. On dirait qu'il y a quelque chose, pas de moins légitime, mais on dirait que les catégories d'emploi, c'est pas aussi cute que des... On dirait que c'est moins spécialisé. Il y a quelque chose qui fait que j'ai jamais... On dirait que je prendrais pas au sérieux quelqu'un qui mettrait une offre d'emploi oui. dans mon domaine sur Kijiji.
Surtout étant donné qu'on a eu beaucoup de faussetés annoncées sur, ouais. Sur les annonces classées, de trucs souvent qui sont même des blagues, que c'est pas sérieux, d'emplois frauduleux. On l'a vu dans ce cas-ci, des gens qui ont eu des graves problèmes à cause de ça, c'est clair. Mais je pense que ce que les gens allaient chercher là comme type d'emploi, c'est plutôt des jobs manuels, mm-hmm. des jobs d'homme à tout faire, des trucs un peu payés en dessous mm-hmm. de la table, un peintre pour peinturer ton appart oui, ou ta oui. maison, un menuisier, des trucs un peu... c'est clair qu'on peut trouver des choses louches sur Craigslist, sans oublier tout ce qui est massage érotique, prostitution. Ouais. On sait que Craigslist ont eu des gros problèmes.
Oh oui.
En raison de que justement qui était possible, je sais pas si c'est l'est encore.
Oui, oui, ben j'avais vérifié, puis il y a des belles sections là, même dans la catégorie Montréal, cherche femme, homme, il y a un peu de tout aussi. Ça, okay. ça m'a un peu amusé, parenthèse, justement dans la genre de section que les gens font une genre d'annonce ou d'invitation, ils se décrivent. Je pensais plus que les gens faisaient ça. C'est drôle, mm-hmm. ça me rappelait un peu dans les annonces classées justement papier de l'époque.
Oui.
Justement, je suis allé voir sur Craigslist, qui est quand même bien géolocalisé en passant. Quand vous tapez Craigslist, il me tombe directement à la sous-section de Montréal. Je trouve ça quand même cool. Bref, revenons à nos moutons. mm-hmm. C'est justement le cas de Scott Davis, qui est un paysagiste de la Caroline du Sud de 46 ans, célibataire. Lui aussi a subi les impacts de la crise économique, a de la difficulté à se trouver un emploi stable. Il passe de petit travail en petit travail.
C'est pas évident non plus pour les gens de cet âge-là
qui
tombaient sans emploi, parce que on passe de plus en plus vers un domaine du savoir d'une certaine façon.
Exactement,
puis
oui.
quand t'es affecté à cet âge-là, puis que t'as fait justement beaucoup des emplois. Lui, dans ce cas-ci, il était paysagiste. Il n'y a pas nécessairement une tonne d'argent de côté. Donc, c'était très difficile pour lui. Puis je crois que il devait avoir plusieurs personnes dans la même situation que lui, dans ces mêmes âges-là.
Ah oui, c'est certain, parce que c'est vrai ce que tu dis, parce que c'est des emplois qui avaient pas beaucoup de qui demandaient pas d'études, et à l'époque
c'était pas encadré avec une pension de retraite
non
ou quoi que ce soit.
Non, exactement, non, les paysagistes, faut qu'ils gèrent leur propre truc, en plus c'est saisonnier mm-hmm. comme travail, donc c'est pas nécessairement évident. Mais ces gens là veut pas, avec leur métier, il y avait pas le même encadrement, les gens de 50 ans d'aujourd'hui. La dynamique est pas la même, il y a pas de formation continue, il y avait pas mm-hmm. un peu toute cette dynamique là. Donc on se retourne, je vous rappelle, en octobre 2011. Donc Scott, un peu désespéré, décide de se retourner sur Craigslist pour se trouver un emploi. Il est un petit peu tanné quand même là. Il avait déménagé chez son frère. Donc il voit une annonce quand même de rêve sur Craigslist qui attire son attention.
Mm-hmm. C'est une annonce qui est postée par un certain Rambo's Job Feed sur Craigslist. En octobre 2011, l'offre, en fait, c'est... le poste en anglais, c'est un caretaker. C'est un peu un homme à tout faire sur une ferme. Dans ce cas-ci, c'est sur un ranch en Ohio. Le travail, c'est de surveiller 688 verges de terrain, nourrir quelques vaches. On est payé $300 par semaine. On loge dans une genre de roulotte avec deux chambres. Aussi, l'annonce promet un lieu magnifique avec un étang, la tranquillité d'esprit. Bref, pour quelqu'un qui aime le plein air et les travaux manuels, c'est un emploi de rêve.
Donc lui, il saute là-dessus, il saute sur cette occasion-là, il se dit « Ah mon Dieu, c'est fait pour moi ». En plus que sa mère, qui est gravement malade, habite à 90 minutes de l'endroit de la ferme à Akron, en Ohio. Donc pour lui, lui, il est en Caroline du Sud. Je pense qu'actuellement, il était à 4 heures de chez sa mère malade. Donc pour lui, c'était en même temps, du moins, d'avoir un emploi. Il pouvait se rapprocher d'elle et pouvoir pouvoir la voir, et c'est un célibataire, il n'y a pas d'enfant, donc pour lui, il n'y a un peu rien à perdre, là. Donc,
exactement. Il aime bien la moto, il a une Harley Davidson, il aime justement faire de la route avec sa moto. Mm-hmm. Et puis, ben oui, je te laisse continuer, Seb.
non, c'est super. Donc, il saute sur l'occasion, il commence à contacter le propriétaire de l'annonce, qui spécifie bien dans l'annonce de ne jamais l'appeler par téléphone. Donc, il lui envoie un courriel. Il s'échange différents courriels. Il communique avec un certain Jack. En fait, ils discutent. On n'a pas vraiment le détail de leur discussion. Ils finissent par se donner rendez-vous. En fait, Jack l'engage après une conversation téléphonique. Il lui confirme que Scott a l'emploi. Il est super content. Il pack ses affaires, il quitte enfin de vivre chez son frère. Je veux dire, à 46 ans, de retourner vivre, mm-hmm. Vivre chez son frère, ça doit pas être vraiment super de pas avoir sa propre économie. Donc pour lui, c'est un peu un nouveau départ. Donc il saute là-dessus.
Parce qu'évidemment, l'emploi nécessite la relocalisation.
Oui.
Tu vas vivre sur la ferme jusqu'à ce que l'emploi se termine ou que
les vaches meurent.
Ah oui, exactement. Donc c'est un emploi permanent, c'est bien spécifié sur l'annonce, tout est clair. L'annonce aussi laisse quand même sous-entendre que c'est un professionnel qui est derrière ça. Mm-hmm. C'est quelqu'un qui spécifie, qui recherche quelqu'un de fiable dans l'annonce. Justement, juste des gens qui ont une certaine expérience. Donc, ça semble être un message à première vue...
Legit, là. Ouais.
Exactement, ouais. Légitime.
Mm-hmm. Scott se prépare au grand départ, à son nouveau départ.
Oui.
Il pack ses trucs, sa moto, ses bagages, un peu tous ses avoirs. En fait, tout son patrimoine, il l'amène avec lui dans un trailer. Il se rend en Ohio, à Akron, près de la ferme, justement. Il a donné rendez-vous à Jack le dimanche matin autour de 10h30. Il se rend sur place. Il voit Jack, qui est accompagné d'un autre homme qui le présente comme Brogan. C'est son petit-neveu.
Ils s'en vont déjeuner dans un restaurant, mm-hmm. un genre de diner, ouais. qui est situé sur le bord de la route. Et justement, comme tu dis, Brogan semble être... âgé de 16 ans, ouais. Je dirais, ouais, fin adolescence. Et puis, ils discutent de plein de choses. On apprend que Jack, par exemple, les deux, en fait, ont eu la chance déjà par téléphone de partager leur foi chrétienne, ouais. d'une certaine façon. Donc, ils discutent de ça. Ils vont discuter de leur croyance, de quelques versets de la Bible. Ils vont discuter beaucoup de motos. Jack va s'informer auprès de Scott quelle est l'année, quel est le modèle de sa Harley Davidson qu'il a amené avec lui. Il a bien hâte qu'il lui montre. Ils vont discuter de choses et d'autres pour familiariser puis pour faire connaissance en face à face.
Fait intéressant aussi, Jack avait une canne, il portait une canne, ce qu'on a remarqué, puis il semble être dans le début, je dirais cinquantaine assez avancée.
Exactement.
Après avoir discuté et avoir mangé, Jack paye la facture pour tout le monde et il explique à Scott que avant de se rendre à la ferme, ils ont eu des dégâts pas loin de la ferme à cause de la pluie et qu'il aurait besoin de lui pour un coup de main et qu'ils vont prendre seulement sa voiture à lui, tous ensemble, puis qu'ils vont revenir pour récupérer le camion de Scott.
Ils prennent donc seulement une voiture, la voiture de Jack, avec Brogan à bord et Scott Davis, et les deux se dirigent prétendument vers le dit ranch, celui où Scott s'en va travailler, et de plus en plus, ils s'enfoncent dans la forêt. Donc ça commence, c'est une route de campagne asphaltée, ça devient tranquillement une route plus rocheuse, une route en garnotte, et de plus en plus il commence à faire sombre. Et à un certain moment, Jack va dire à Brogan, hey, tu te rappelles, j'ai vu un cerf ici il y a quelques semaines, parce que c'est aussi un territoire de chasse.
Mm-hmm. Une fois sur place, en fait, il arrive un certain moment dans la forêt, c'est vraiment éloigné, il n'y a plus d'habitants. Mais bon, c'est un peu ce que l'annonce décrivait, que c'était un endroit tranquille, avec peu d'habitants. Donc, mm-hmm. Scott se pose pas vraiment de questions. Il débarque la voiture, il dit, après avoir déterminé l'endroit, justement, où il s'était rendu, où il avait eu le supposé cerf, il débarque puis il dit à Brogan, viens nous rejoindre un peu plus loin avec la voiture. Donc, il y a juste Jack et Scott qui s'enfoncent un peu dans les bois. Il lui dit, c'est un peu plus loin, donc... Il s'enfonce dans les bois, il marche un certain temps. Et plus il avançait, plus le boisé s'épaississait au fur et à mesure. Donc, il se rendait quand même assez loin.
Il se rendait compte qu'il était plus tellement dans une trail balisée, là, que ça commençait à devenir un boisé intense. Il était en plein milieu de la forêt.
Justement, Jack, il dit, je pense que je me suis trompé de chemin. On va retourner un peu sur nos pas, on va prendre une autre direction parce que on n'est pas où ce que je pensais qu'on allait être. Écoutant les instructions de Jack, Scott revient sur ses pas, il se retourne et emboîte le pas dans la direction inverse. C'est à ce moment-là qu'il entend un genre de clic. Il dit « il me semble que je connais ça, ce bruit-là ».
Parce que Scott est un chasseur aussi, on l'a pas mentionné plus tôt, mais il a cet instinct.
Et là, il se retourne, il part justement instinctivement, il voit le gun de Jack, il met son bras devant son visage, son coude pour se protéger le visage. Il a bien fait parce que justement, Jack a tiré dans le bras. Mm-hmm. À ce moment-là, Scott a pris la fuite, on peut comprendre, dans les bois, il regardait pas où ce qu'il allait, il s'est sauvé complètement. Et Jack continuait de tirer, mais il l'a jamais atteint par d'autres projectiles. Il essaie de le rattraper, mais je vous rappelle que Jack a une canne, donc il est pas très, mm-hmm. très mobile. Il se met à appeler en même temps en panique, Brogan, Brogan! Là, il se rend compte que son plan a vraiment foiré, là. Il a besoin d'aide.
Et là, il va s'en suivre une chasse à l'homme de plus de 8 heures entre Jack et Scott Davis. On l'a dit plus tôt, Scott est un habile chasseur. C'est un gars manuel aussi. Ouais. Il connaît bien la nature. Et donc, il connaît les bases de la survie en forêt. Il va réussir à se cacher à plusieurs moments. Il va se cacher sur une souche. Il va même, à un certain moment donné, parce que justement, il bouge pas, puis il est atteint par balle. Il saigne, donc... c'est pas cool, ça peut attirer les animaux. Il va même, à un certain moment, suivre une rivière. Donc, il va embarquer dans une rivière et marcher dans la rivière afin de se laver de son sang et de faire en sorte qu'il va moins attirer les bêtes sauvages. Il va se cacher sous une souche pendant plusieurs heures jusqu'au point où des écureuils vont venir, sniffer autour de lui, puis même le grignoter un peu ses plaies et tout ça. Apparemment que c'était très très douloureux. Et à un certain moment, son téléphone cellulaire va manquer de batterie.
Mauvais timing.
Et il va avoir un genre de petit beep qui va se faire entendre. Et c'est à ce moment-là que, croyant qu'il était enfin sain et sauf, Scott va entendre Jack revenir près de lui dans la forêt. Il va entendre des bruits de pas autour de lui et Jack va même passer là, à quelques centimètres du pauvre Scott qui essaie de se cacher.
Justement, c'est ce qui est particulier dans ce bout-là de l'histoire, c'est que son cellulaire sonne à peu près au même moment que Jack se pointe pour essayer de le retrouver parce qu'il l'entendait au loin, il entendait des bruits de pas, mais avec une canne, tu sais, ça fait quand même la cadence, elle est différente dans le bruit avec la canne. Il y a une troisième jambe, si on veut. Et là, il était tellement effrayé, là, à un point, imaginez, là.
Il croyait que son heure était venue.
C'était la fin, là. Tu sais, méchant mauvais timing. Heureusement pour lui, ils ont quitté. Il décide de sortir de sa cachette et de se diriger à travers les bois pour essayer de trouver de l'aide.
Scott marche pendant plusieurs minutes. Il est désorienté, il est confus. Il sait pas exactement où est-ce qu'il se dirige. Il connaît pas du tout le lieu. Et il se dit qu'à tout moment, Jack peut ressurgir. Peut-être qu'il est caché. Peut-être que c'était une mise en scène et qu'il y a seulement, je sais pas moi, Brogan qui est parti avec la voiture et que Jack, lui, est toujours dans les bois à l'attendre. Heureusement, à la noirceur, il réussit à se frayer un chemin à regagner la route. Et puis, il va voir deux maisons au loin. Donc, il va en voir une à gauche, une à droite. Il n'y a pas beaucoup d'habitants dans cette région-là, donc les maisons sont très loin l'une de l'autre. C'est pas évident d'aller commencer à cogner à toutes les portes. Instinctivement, il se dit que la maison à gauche, qui est la plus proche, est peut-être celle de son prédateur. Donc, il décide de se diriger vers celle de droite. Il croit faire le bon choix. Il va arriver à une maison où il voit de la lumière. Il semble avoir de la vie. Il n'est pas encore trop tard. La famille n'est pas toute couchée, peut-être. Et il prend une chance. Il va cogner à la porte. Et à ce moment-là, il y a une jeune fille qui vient lui répondre. Et en bon gentleman, même si il saigne, même si il vient de passer plusieurs heures sous une souche, il va dire à la jeune fille, est-ce que tes parents sont ici? Donc il garde son calme, il reste courtois, il va demander à la jeune fille si ses parents sont là. La jeune fille lui répond qu'ils sont absents, mais que sa grand-mère est là. Et c'est là qu'elle va aller chercher sa grand-mère. La dame en question vient rencontrer Scott en bas, qui lui explique d'une manière très confuse, parce qu'il se rend compte que, il prend conscience un peu de tout ce qui lui est arrivé. Et il va évidemment demander à la dame d'appeler les policiers, et ceux-ci vont venir sur les lieux du crime.
Le shérif arrive chez la dame en question. Il se met à questionner un peu Scott. Et Scott, il est un peu en semi-panique, décousu dans ses explications. Il explique qu'il a été tiré en même temps d'un gars. Puis c'est vraiment décousu toute son explication. Puis le shérif, on voit jamais ça dans une ville comme ça. C'est une ville hyper tranquille. Il y a presque pas d'habitants. Il comprend pas trop son discours. Tu sais, le gars, il arrive un peu de nulle part. Il dit qu'il est pas de la place, qu'il est venu pour un emploi, d'une ferme. Il comprend pas trop.
C'est beaucoup à digérer.
Oui, c'est ça. Il est vraiment méfiant de tout ça parce qu'il se demande s'il est pas lié à quelque chose d'un peu louche, dans le fond, qui est pas nécessairement une victime, mais plutôt, plutôt dans un conflit, si on veut.
Malgré tout, le shérif vient à la rescousse de Scott, qui est rapidement mis en sécurité. Mais l'enquête piétine. Il démarre une enquête, mais il n'arrive pas à retrouver ce Jack. Ils n'ont pas de preuves. Il n'y a pas vraiment de lieu de crime. Tout ce qu'on a, c'est le témoignage de Scott. Donc, ils peuvent pas aller très loin.
Il n'y a pas de portrait robot. Il n'y a rien. Hein.
Exactement. Ils doivent demander de l'aide à d'autres enquêteurs. On se transporte maintenant en Virginie du Nord, où il y a une dame qui n'a pas eu de nouvelles de son frère depuis plus de 2 semaines. Son frère, c'est un dénommé David Pauly, qui est âgé de 51 ans, qui est divorcé, un ex-camionneur qui a lui aussi perdu son emploi en raison de la récession. Il est cassé, il doit déménager chez son frère, tout comme Scott d'ailleurs, et il fait beaucoup d'efforts pour se trouver un emploi stable. Sa sœur a eu vent de l'histoire de Scott Davis, de l'homme qui a tenté de l'assassiner dans les bois. Elle voit ça dans les journaux et a fait un lien avec la disparition de son frère. Parce que ce qu'elle remarque, à ce moment-là, justement, elle contacte les policiers. Ouais. Les policiers viennent la rejoindre. Et elle a une histoire qui est très très similaire à celle de Scott. Je sais pas si tu veux nous en parler aussi,
Seb. Ouais, c'est un peu la même chose, en fait. C'était une offre d'emploi sur une ferme en Ohio. Donc, c'est exactement le même contexte. Donc, elle fait 1+1. Elle contacte alors le shérif. La police se retrouve avec 2 cas similaires qui semble être relié un peu au même criminel, à la même personne. Une personne qui a été tirée, puis une autre qui est portée disparue, tous les deux sont en lien avec des gens qui allaient appliquer pour un emploi sur une ferme en Ohio. Là, le shérif, il se dit, mais c'est parce que des fermes, il n'y en a pas vraiment dans le coin, et encore moins des fermes de 688 verges.
Des ranchs des vaches.
C'est un peu ce qu'ils catégorisaient. À cette taille-là, c'est un ranch. C'est énorme. Et malgré que l'étendue du paysage là-bas, ça n'existe pas vraiment. Donc là, ils se mettent vraiment à l'enquête. Ben, ils étaient déjà à l'enquête, mais ça met encore plus la puce à l'oreille. David devient porté disparu officiellement. Et ils vont recontacter Scott. Scott là, les met un peu sur la piste où ce que lui a été braqué. Oui. Il les ramène à cet endroit-là. Et tout près du braquage, il se rend compte, la police en fait amène des chiens pour faire une fouille, fouiller les bois, parce que là, ils se questionnent, il est porté disparu, l'autre a eu une tentative de meurtre, donc ça se peut qu'il soit quelque part dans le bois. Les chiens découvrent, en fait, la police et les chiens, toute l'équipe, découvrent une genre de tombe, si on veut, en surface, creusée dans le sol, près de où Scott a été tiré. Et là, il déterre tout le processus et il découvre des os humains. Et près de là, en plus, il voit un début de tombe creusée, déjà la tombe de Scott qui était déjà prête à le recevoir, qui se retrouve dans les bois.
Le cadavre s'avère être celui de David Pauley, qui a été assassiné selon le même modus operandi. L'enquête n'est plus seulement envers une personne disparue, puis un agresseur. On parle maintenant d'une situation de meurtre.
On se rend compte qu'ils doivent trouver une aiguille dans une botte de foin. Qui est Jack? Ils n'ont pas de traces. Ils ont à peu près rien à part une annonce Craigslist. Donc, ils lancent un avis de recherche à la grandeur des États-Unis.
Les enquêteurs commencent à retracer le parcours de Scott. Il commence par le fameux restaurant, le genre de diner où ils sont allés déjeuner tout le monde ensemble. Et effectivement, il y a une vidéo de surveillance qui est disponible. Oui, oui. Et il voit enfin les deux suspects entrer dans le resto avec Scott. Ils peuvent enfin mettre un physique à ces gens-là. Donc, on voit clairement Jack avec sa canne, qui est un homme, justement, peut-être fin cinquantaine, bedonnant, avec une barbe, qui, justement, a de la difficulté à marcher. Et on voit Brogan, qui est effectivement beaucoup plus jeune que lui, qui doit avoir fin adolescence, 16-17 ans, je dirais, qui l'accompagne, et Scott, évidemment. Et on les voit se diriger, sortir du restaurant et se diriger vers le stationnement sur cette vidéo de surveillance-là. Malgré tout, maintenant, ils peuvent mettre enfin un physique au nom de Jack, mais l'enquête piétine, puis ils réussissent pas à le trouver via cette vidéo de surveillance-là.
C'est pas évident seulement avec un visage, oui. Ou du moins, c'est même pas un portrait robot. Ils se mettent à investiguer les échanges sur Craigslist. On peut sous-entendre que Jack, ou disons, Jack n'est pas vraiment un geek ou un hacker, donc d'après moi, il n'a pas dû prendre de protection pour lorsqu'il a créé ses annonces, appeler les gens, faire des échanges par courriel. Donc la police finisse par le retracer quand même, je vous dirais, assez facilement. C'est pas un hacker le gars, là. C'est pas Slavik dans nos anciens épisodes, là. Il n'y a pas des couches de protection avec des messageries instantanées intégrées.
Par exemple, il va avoir fait les appels téléphoniques avec son propre cellulaire. Lui, il n'a pas trop compris le processus des antennes cellulaires qui vont pigner ton téléphone à de nombreux endroits. Donc il était pas... C'était pas le plus allumé de la gang de ce côté-là.
Non, c'est pas le crayon le plus aiguisé de la boîte, comme on dit.
Oui.
Ils finissent par le retracer par géolocalisation. En fait, ils ont réussi à la base par le numéro de téléphone. Ils ont identifié un certain Richard G. Beasley. Richard G. Beasley, qui vit dans un quartier industriel un petit peu délabré de Akron, en Ohio. Ils ont pas eu de difficulté à l'intercepter. Il traversait la rue avec sa canne. Ils l'ont remarqué tout de suite, ils l'ont identifié, ils l'ont arrêté. Il n'a pas vraiment résisté à son arrestation.
Il l'amène en interrogatoire, puis quand il commence à l'interroger, la dynamique est très très fermée, oui. Entre les deux. Beasley, lui, affirme que, en fait, tout d'abord, il veut pas répondre à leurs questions. Il veut avoir la présence d'un avocat. Lorsque les policiers lui amènent certains faits, il nie tout. Il est pas du tout collaboratif là à première vue.
Non, il veut absolument rien dire. Il veut pas répondre à leurs questions. Beasley est très connu des policiers. Il a fait 12 ans de prison pour vol dans le passé.
Mais il serait aussi un vendeur de weed dans les écoles secondaires du coin.
Un bon garçon.
Oui.
La police ayant pas de réponse et ayant quand même identifié une autre personne sur la vidéo, et Brogan n'a jamais caché sa véritable identité, du moins son vrai prénom, ils ont pas de difficulté à le retrouver. Ils le mettent en état d'arrestation, ils l'amènent en interrogatoire, et la discussion est un petit peu plus facile, je vous dirais, avec Brogan, qui est son prétendu neveu, mais il est un peu plus jeune, donc on s'entend qu'il est un petit peu plus vulnérable. Brogan commence à raconter un peu sa relation avec Beasley, qu'il a rencontré à l'église, que c'était un ami de son père et qui ont développé une certaine relation père-fils.
Une relation un peu malsaine là, de justement, je vais faire...
Je fais tout pour toi.
Exactement.
C'est à ce moment que Brogan flanche sous la pression. Il se met à avouer que lui et Richard ont mis sur pied une arnaque sur Craigslist pour attraper des gens, les tuer et les voler pour pouvoir survivre. Eux, ils avaient même l'intention, avec le stock de Polly, de justement passer l'hiver avec toute sa marchandise, sûrement en la revendant.
Mm-hmm, exactement. Ils estimaient qu'avec tout ce que Polly avait, il pouvait revendre jusqu'à 30 000 $ ouais. d'équipement, puis pouvoir réussir à se faire un petit salaire. Ouais, exactement. Beasley était aussi reconnu comme un genre de preacher. Il se prétendait fils de Dieu. Il semblait très impliqué au niveau de l'Église, mais il semblait justement faire des trucs un peu sur le side qui étaient, je dirais pas occultes, là, mais il semblait avoir un côté spirituel un peu malsain qui fait en sorte qu'il a embarqué Brogan avec lui dans ses histoires. Il semblait être très crédible de ce côté-là. Aussi, on apprend que Beasley a une fille qui se nomme Tonya et puis qu'il est divorcé depuis des années. Donc, il vivait plus avec sa fille depuis longtemps. Il avait divorcé de sa femme. Il avait fait de la prison. Comme tu dis, c'était pas un gentil garçon, ce Richard Beasley.
Non, puis il se parlait plus.
Exactement. Le tout devient un peu plus clair pour les policiers. Puis, c'est là que Brogan les interrompt en disant « There's more ». Et ça, on aime ça, se faire dire ça quand on est enquêteur ou quand on anime un podcast de True Crime. Et ça impliquerait un certain Ralph Geiger 6 mois plus tôt. Encore une fois, Ralph Geiger cherchait du travail. Il est parti, puis il n'est jamais revenu, selon ses proches. Beasley avait apparemment volé son identité et travaillait sous son nom. Donc, Beasley utilisait aussi l'identité de d'autres gens. Et le gars était en probation, donc pas... c'est pas très winner comme situation. Quelques semaines plus tard, le corps de Geiger avait été lui aussi retrouvé dans les bois là, via une tombe fait à la main. Même histoire aussi auprès de Tim Kern, qui était aussi un homme dans le même type de description, même profil. Lui aussi cherchait du travail, il vivait dans sa voiture, il aurait rencontré Beasley plus tôt. Et puis lui, en fait, se serait pointé tous ses avoirs rentrés dans 2 sacs de plastique. Il aurait eu seulement 5 $ sur eux, mais ils l'ont tué quand même.
Incroyable.
Sa fille, Tonya, en fait, se rappelle, parce que les policiers vont aussi l'interroger, elle, et puis elle se rappelle d'un drôle de moment où des policiers sont venus chez elle, elle était ado à l'époque, puis ils sont venus pour lui parler d'un lot de plus de 600 acres, donc d'un terrain avec un ranch. Les policiers se rappellent qu'ils lui ont posé beaucoup de questions là-dessus, ont posé beaucoup de questions à sa mère, parce que la jeune fille vivait avec sa mère. Puis elle faisait pas vraiment le lien. Elle se disait pourquoi les policiers viennent nous voir pour nous parler d'un certain terrain. Ouais. Et puis le policier aurait reçu un appel d'un collègue au même moment et elle aurait entendu via le téléphone « Ah, on a trouvé un autre cadavre. On a trouvé un autre cadavre. » Donc des mots comme ça. Puis c'est là qu'elle a dit « Est-ce que vous parlez de mon père en ce moment? » Donc, elle aurait elle-même fait le lien.
Ouais.
C'est quand même assez spécial de voir les policiers débarquer chez vous lorsqu'ils étaient dans un jeune âge, puis comprendre que peut-être que ton père est lié à des histoires de cadavres retrouvés dans les bois. Là.
C'est pas très rassurant. Finalement, tout ce beau monde-là a été arrêté et mis en accusation et jugé pour le meurtre, en fait, pour les 3 meurtres et la tentative de meurtre qui s'est produite. Pendant le témoignage, la mère de Richard, Carol Beasley, a quand même dévoilé un peu le passé de Richard. Parce qu'on s'entend, quelqu'un peut pas devenir méchant comme ça. Même à un certain moment, j'avais une certaine empathie pour lui, mais je me dis que quand t'es rendu à tuer pour survivre, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Du moins, t'es quand même vulnérable. Et elle témoignait que durant son enfance, il a beaucoup souffert d'abus physiques par son beau-père et même qu'elle a appris un petit peu plus tard qu'il aurait été abusé sexuellement par des voisins, des voisins adolescents. Et même sa défense, ses avocats ont mis sur la table le fait qu'il y a eu plusieurs problèmes d'alcoolisme et de dépression, justement reliés à une enfance trouble. Richard a été condamné à mort, parce qu'au départ, il n'était pas condamné à mort, là, il y avait la prison à vie, et en fin 2016, il y a eu le verdict. Je ne sais pas comment ça fonctionne au niveau juridique, mais il y a eu le verdict de peine de mort là, qui a été appliqué sur lui. Actuellement, c'est quand même en appel. Ils ont toujours cette option-là, ce droit de veto-là. Et au niveau de Brogan, lui, il a la prison à vie sans appel. Donc, de ce que je comprends, il peut pas quitter la prison jamais.
Parce que Brogan avait aussi avoué être complice d'une certaine façon, malgré le fait que Richard Beasley est vraiment celui qui a appuyé sur la gâchette. Brogan avait été témoin de tout ça et n'avait pas agi alors qu'il l'aurait pu. Donc, il a vraiment été traité comme un complice là, de Richard Beasley, traité en adulte parce que même à ça, je crois qu'il avait 17 ans lors des actes du crime. Et il a été traité comme un adulte et dans ce cas-ci, là, c'est la prison à vie sans appel.
Ben, il était à la tête quand même du modus operandi aussi. Fait étrange, Scott Davis, le seul survivant de cette histoire-là, dans un reportage, vous voyez qu'il y avait beaucoup d'empathie, une certaine empathie envers Brogan.
Oui.
Il disait que c'était un bon garçon. Il sentait que c'était un bon garçon à la base, qui avait été manipulé de A à Z dans toute cette histoire-là. Ce qui est sûrement pas faux, hein. Une relation père-fils qui devient un petit peu fusionnelle. Mm-hmm. Généralement, il devait aller chercher quelque chose que lui a pas eu. On n'a pas beaucoup d'historique sur le passé de Brogan. Mais tout de même, ça démontre que, parce qu'il y a un père, là, c'était l'ami de son père, mais il semble s'avoir plus attaché à Richard.
Et comme tu dis, Scott indiquait dans une entrevue qu'il pardonnait à Brogan, tandis qu'évidemment, il ne pardonne pas à Richard Beasley. Scott, lui, Scott Davis, de son côté, ben il est toujours dans le paysagement. Ouais. Apparemment qu'il opérerait une entreprise de paysagement là, qui a beaucoup de succès en Caroline du Sud et qu'il vit près de sa mère maintenant. Puis la vie a repris son cours et tout se passe bien.
Il s'en est sorti.
Donc, toute une histoire, Seb, ces meurtres sur Craigslist, la preuve qu'il faut faire bien attention quand on rencontre des gens sur des sites de petites annonces.
On devient vraiment méfiant, hein. Ça devient, je pense, à quasiment... Je trouve que ça pollue, d'une certaine manière, notre relation... J'ai l'impression que parce qu'il y en a des cas, il y en a tellement des cas d'annonces classées de des gens qui se font enfiroiper. On devient avec une méfiance comme par défaut. Je trouve ça un peu triste, bien honnêtement.
Non, on finit par ne plus faire confiance aux gens qu'on rencontre en ligne. Évidemment, c'est pas en écoutant Distorsion que vous allez avoir plus confiance vers les gens que vous rencontrez en ligne, parce que nous, on aime ça, les catfish, les histoires sordides et tout ça. Donc, peut-être qu'on n'aide pas à votre confiance. Mais quand même, il y a plusieurs histoires troublantes comme ça, et je crois, Seb, que tu as même trouvé une histoire qui est arrivée au Québec récemment.
Oui, on remonte un petit peu plus récemment dans le temps. Une certaine Chloé qui se décide un jour de placer une annonce sur Craigslist, elle aussi, parce qu'elle avait besoin de médicaments. On ne sait pas trop pourquoi, mais elle avait besoin d'une alternative à la morphine.
OK. Ça commence bien.
Oui, effectivement. Mais bon, on sait que Craigslist, ça sert un peu à tout. Mm-hmm. Elle place une annonce. Il y a un certain Patrick Gagnon qui lui répond à son annonce, puis lui propose du Dilaudide, qui est un puissant narcotique. Il lui vend 10 mg pour 20$, livraison incluse. Donc, méchant deal, sincèrement, je connais pas trop le prix du marché de cette drogue-là, mais c'est vraiment pas cher, je trouve, avec la livraison qui est incluse. Donc, ils s'échangent, Chloé et Patrick s'échangent durant environ 2 semaines des courriels, parce qu'on s'entend, même s'il y a beaucoup d'échanges de drogue qui se font, les gens restent quand même méfiants puis ils veulent pas tomber sur un agent double ou sur une police. Donc, pendant 2 semaines, ils s'échangent des courriels, des photos, ils discutent ensemble, justement pour s'assurer que personne n'est une police. Là, ils conviennent d'un rendez-vous environ 2 semaines après. Le 30 novembre 2015, ils se disent à 14h30... au parc Raymond Préfontaine à Montréal, près de la station de métro.
Mm-hmm.
Il dit à Chloé, Patrick dit à Chloé, moi je vais être vêtu de noir, je vais t'attendre en lisant un livre sur un banc de parc, t'as juste à venir me voir à côté du skatepark.
C'est dans Hochelaga, ça?
Oui, exactement.
Good old Hochelaga.
Le 30 novembre, Patrick se rend à son rendez-vous, il embarque dans son Hyundai Santa Fe, se rend à côté, dans le parc, à côté de la station de métro, dans le skatepark. Il s'est habillé en noir, comme prévu, il s'installe, il arrive un peu d'avance au rendez-vous. Il s'installe sur un banc de parc et il lit son livre. C'est tout à coup, il entend un « Hi, Patrick ». Et c'était Chloé qui se pointait devant lui et elle lui tend un paquet de cigarettes vides avec un 20$ à l'intérieur. Mmh. Lui, par réflexe, il dit « Mais là, je fume pas ». On voit vraiment qu'il est pas habitué aux transactions de drogue. Donc, elle lui dit « Mais là, c'est le paiement ». Il l'amène dans sa voiture pour lui donner la drogue. Les deux embarquent dans l'auto. Il ouvre le cendrier, fait la transaction. Elle apprend son petit sac de pilules. Elle part pour quitter la voiture. Et là, il lui met la main dessus. Il dit encore quelque chose. Puis là, il lui pointe des menottes.
OK.
Là, elle est certaine qu'elle s'est faite pogner par un agent double. Donc, elle résiste même pas. Elle lui tend les mains, se croyant en état d'arrestation, mais elle refuse de répondre aux questions tout de même parce que ça fait partie de nos droits. On n'est pas obligé de répondre aux questions de la police. Patrick lui dit « C'est correct, tu peux garder le silence ». Il démarre alors son véhicule. Il dit à Chloé qu'ils doivent se rendre à la station de métro Joliette, qui est située à moins d'un kilomètre de là-bas. Mais ce n'est pas là que Patrick compte aller finalement. Chloé s'en rend compte assez rapidement. Il commence à virailler un peu dans Montréal-Est. Il prend la direction de la rive sud par le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. C'est à ce moment qu'elle commence vraiment à s'inquiéter. Elle se dit soit que je me suis fait arrêter, je suis dans la merde, ou ce gars-là va me violer, il va me tuer. Là, elle lui demande mais où est-ce qu'on s'en va? Il lui répond qu'il s'en va à Saint-Hyacinthe, qui est à son bureau. Ce qui est quand même étrange qu'un policier de Saint-Hyacinthe arrête une fille à Montréal.
Dans une histoire d'infiltration de drogue Craigslist.
Sur Craigslist, exactement. Là, c'est un peu louche. Surtout, c'est ça, là, d'une petite acheteuse. On s'entend qu'ils ne font pas nécessairement ce déploiement-là. Ils ne se dirigent pas vraiment même vers les panneaux qui annonçaient le poste de police que Chloé a vu sur l'autoroute 20. Donc là, elle se sent vraiment biaisée ou du moins dans un guet-apens total. C'est à ce moment qu'il l'amène dans un genre de quartier industriel. Il s'arrête dans un cul-de-sac. Près d'un boisé. Là, il lui dit « J'imagine que tu as compris que je ne suis pas un flic. » Elle essaie, enfin, de négocier avec lui pour qu'il la ramène chez elle. On n'a pas vraiment le détail de la discussion avec lui, mais elle essaie de le convaincre d'abandonner un peu son plan. Lui, il lui dit « Inquiète-toi pas, je vais te reconduire à Montréal après que j'ai eu une relation sexuelle avec toi. » Tout ce qui est plus rassurant.
Oui, hein?
Il est plus de 16 heures, il fait encore clair dehors. À côté du boisé, Chloé voit un camion qui arrive avec un homme qui vient promener son chien. Elle se dit « Ah, c'est ma chance, je vais pouvoir demander de l'aide, je vais pouvoir me sauver. » Elle tente de se sauver, mais instantanément, elle tente d'ouvrir la portière. Patrick, son bourreau, la rattrape, la pousse au sol et embarque sur elle parce que c'est un homme, là, il est beaucoup plus fort qu'elle. La menace, il lève son chandail, lui montre qu'un couteau, elle abdique. Donc, il la ramène dans le coffre de la voiture. C'est à ce moment-là qu'au coffre, elle se rend compte qu'il y a des menottes attachées aux pieds, aux pattes, des bancs arrière.
Il était prêt, là.
Il était vraiment prêt à son coup. Tout était planifié. Il l'installe là, il la menotte, il ferme la porte du coffre, rembarque dans la voiture, conduit une quinzaine de minutes de là, un peu plus loin. Et il se décide d'arrêter sur le bord du chemin. Et c'est à ce moment-là qu'il installe sa tablette électronique entre les deux bancs. Une fois arrêté là, sur place, sur le bord de la route, il installe sa tablette électronique pour filmer la chose. Il se met à la violer une première fois sans condom dans le coffre arrière du VUS du Santa Fe. Une fois son truc fini, il commence à faire noir et il dit à Chloé qu'ils doivent se déplacer, qu'ils n'ont pas terminé, qu'il veut aller ailleurs. Donc, il prend la voiture avec elle, pauvre elle, qui est encore attachée à l'arrière. Ils prennent l'autoroute 20 encore. Ils continuent à rouler un certain temps. Elle a juste sorte. Mettez-vous dans sa position. Elle a froid à l'arrière. Elle lui dit, il lui donne une couverte. Quel gentilhomme. Mais là, il se dit, faut que j'arrête une chambre d'hôtel. Il y a de l'ADN sur toi. Faut que tu te laves. Donc, il va se louer un petit motel miteux dans le coin du mont Saint-Hilaire. Le motel s'appelle Mont Saint-Hilaire et Cabine. Super nom original.
Oui.
Il arrive là vers 18h30. Dites-vous là, que ça fait déjà 4 heures que Chloé a été enlevée par lui. Il rentre dans la chambre d'hôtel avec elle. Il la menotte à l'évier pour pas qu'elle se sauve. Pouf, c'est incroyable.
Ouais.
Il avait tout à porter avec lui, tout son attirail. Elle, elle voit débarquer ça, là, les jouets sexuels, les menottes, les gants de latex. Il avait même amené de la nourriture parce qu'avant avant qu'il parte de chez lui, il avait acheté de la nourriture, des fruits pour s'assurer que tout le monde soit bien nourri et hydraté durant son périple. Il avait même amené, écoutez ça, là, il avait même amené des tu sais, le gars, quand tu veux faire vivre l'expérience, il avait amené des draps en satin rouge pour les mettre à l'hôtel, parce que ce qui a témoigné, c'est que c'est plus doux. C'est quand même assez particulier. Il exige à Chloé qu'elle prenne un bain pour se laver et enlever toutes les traces d'ADN, malgré que je suis pas certain qu'un bain élimine nécessairement
tout. Je pense pas que ça élimine tout, non.
Non,
exactement.
Effectivement. Il s'assure qu'elle peut pas fuir du motel par la fenêtre. Là, il lui annonce qu'il veut la garder pour la nuit. Donc, pauvre Chloé, il veut encore du sexe avec elle. Elle veut pas. Elle veut pas, mais bon, elle a pas le choix. Il la réattache sur le lit. Une fois que c'est fait, dites-vous, il l'a violée pendant environ 6 à 7 fois durant la nuit. À chaque fois, entre chaque ébat, il lui exige qu'elle se nettoie. Et quand elle dort, il se menotte pied à pied, il se colle sur elle, il lui dit « Ah, t'es forte, t'es belle, tu vas ressourire un jour. »
Okay.
Il est vraiment creepy.
Psycho,
là.
Ouais,
il est vraiment creepy, le gars. Là. Tu vas retrouver ton sourire, t'en fais pas. Il lui promet de la ramener chez elle au lever du soleil tout de même. Mais à 9h le matin, ils sont toujours pas partis de là. Il lui dit qu'il doit briser sa promesse. Chloé est en pleurs. Il la filme. Il lui lance ses vêtements puis il la filme pendant qu'elle s'habille, parce que pour lui, il avait besoin d'un souvenir de son corps en entier. C'était super important pour lui. Mais là, ça stagne un peu. Donc, finalement, il fait rien. Il quitte le motel. Il la ramène dans la voiture et il lui cache les yeux, lui bande les yeux pour s'assurer qu'elle ne détecte pas, qu'elle ne puisse pas remarquer où ce qu'ils sont situés. Il la remenotte. En fait, il a la menotte au bras de vitesse du véhicule. Ils prennent la route. Puis lui dit, je vais te ramener à une station de métro à Montréal sans problème. Mais même pas à 300 mètres de là, Patrick, il se fait intercepter par la police. Parce que la chose qu'on savait pas, Patrick avait des tickets de non payés. Et au même moment, on sait, les polices ont des détecteurs de plaques, hein, maintenant automatiques, mm-hmm. Qui scannent vraiment les plaques, puis ils peuvent tout de suite détecter si vous avez des amendes qui sont pas payées, ça lève un flag. Il se fait accoster. Il voit que la police allume les sirènes pour tenter de l'arrêter. Il panique, il tente de sauver, il perd un peu le contrôle, pouf, fonce dans un arbre. La police l'arrête, tombe sur la fille qui est menottée. Pour elle, son calvaire est fini. Tu sais, la police, elle pensait juste faire une arrestation de base de quelqu'un qui n'a pas filmé ses tickets. Il résiste pas à son arrestation du tout, même qui sourit. Qui est collaboratif.
Okay.
Il dit même à la police que je savais que j'allais me faire arrêter de toute façon. Il s'incrimine automatiquement devant les policiers qui a violé la fille et tout ça, qu'il l'a séquestré.
Wow.
Incroyable.
Et dis-moi donc, qu'est-ce qui est arrivé là avec Patrick au final?
En fait, Patrick a été reconnu coupable. Ah, c'est ça qui est incroyable. En fait, il y a eu au-dessus de 17 chefs d'accusation. Parce que une fois que les policiers l'ont arrêté, en interrogatoire, il a avoué qu'il était un amateur de pornographie juvénile, que dans sa checklist, il voulait, parce que violer une femme faisait partie de sa checklist d'objectifs, il voulait violer des enfants, il voulait avoir des relations sexuelles avec des enfants. Pour lui, il a avoué qu'il consommait de la pédophilie, je sais pas comment on peut dire ça, mais il consommait de la pornographie juvénile chaque jour. Pour lui, il mentionnait au policier que c'était tout à fait normal de consommer tout ça. Fait alarmant, il a toujours le sourire. Si vous cherchez, son nom complet, c'est Patrick Lévesque Paquette. Vous allez voir, il a un sourire dès son arrestation. Il est glacial. Il a toujours un sourire de satisfaction dans le visage. Même les policiers trouvaient ça tellement étrange quand il s'était fait arrêter. Finalement, on n'a pas toujours la peine finale. Il était dans le fond, mis à l'Institut de Pinel, l'Institut psychiatrique de Pinel. Il était supposé avoir une nouvelle évaluation en février 2017. Il n'y a toujours rien qui est sorti dans les médias, si on veut, sur la finalité de son procès et de ses accusations actuellement. Fait important à mentionner, il a quand même plaidé coupable à quasiment la majorité des accusations contre lui, en particulier celle de la pornographie juvénile.
Bon, il risque bien de se retrouver à Pinel pour un bon bout de temps, je pense.
Oui, effectivement.
Ben, merci de cette histoire québécoise, Seb. Ça nous rassure pas. Ça nous montre qu'effectivement, même ici, il y a des atrocités qui se sont déroulées grâce à Craigslist. Donc, ça nous donne encore moins confiance envers les petites annonces classées.
On n'est pas à l'abri.
Exactement. Si vous voulez nous suggérer des sujets, si vous avez des commentaires, vous pouvez les faire au distorsionpodcast.com. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook au Distorsion Podcast. Nous, on aime ça, discuter avec les membres de la communauté. Si vous voulez discuter de différents sujets, venez sur notre page et laissez-vous aller. On va vous répondre. On aime bien ça. Et puis, sur Twitter aussi, au Distorsion Pod. Sinon, Seb, un mot de la fin.
Sachez que le bonheur n'est pas à vendre sur les annonces classées.
Oh non.